libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose d'un web chat, donc utilisez votre navigateur web et rendez-vous sur chat.libre-a-toi.org ou directement sur le site de la radio et vous cliquez sur chat. Vous nous retrouvez également sur le salon dédié ainsi à l'émission. Nous sommes mardi 4 décembre 2018, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être un podcast dans le futur. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Houchet, délégué général de l'April. Le site web de l'April est april.org. Et vous pouvez y trouver dès maintenant une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles que nous avons cités et ceux que nous n'avons pas encore mis sur la page, je les rajouterai à la fin de l'émission, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors on va passer maintenant au programme du jour. Nous allons commencer par une interview de présentation du Paris Open Source Summit, qui est un événement qui va se dérouler demain et après-demain. Ensuite, d'ici une quinzaine de minutes, notre sujet principal porte sur les logiciels libres et le monde associatif. Et j'ai le grand plaisir d'avoir en studio avec moi Frédéric Frunder, délégué général chez le Mouvement Associatif. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Également présent, Laurent Costi, administrateur de l'April, co-animateur du groupe de travail Libre Association de l'April et directeur adjoint de la Fédération Française des MJC, donc Maison des Jeunes et de la Culture. Bonjour Laurent.
Bonjour à toutes et à tous.
Donc on vous retrouve d'ici une petite quinzaine de minutes. Et ensuite, aux alentours de 17h, de 16h45, nous aurons une présentation de notre initiative Libre en Fête par ma collègue Isabella Vanni. Alors on va passer tout de suite au premier sujet. Donc comme je vous l'ai dit, on va commencer par une interview avec Pierre Baudraco et Caroline Corbal, qui sont membres du comité de programme de Paris Open Source Summit, qui vont nous parler donc de cet événement qui a lieu les 5 et 6 décembre 2018 au Doc Pullman à Aubervilliers. Alors c'est une interview qui a été enregistrée il y a quelques jours. Et on se retrouve juste après. Eh bien bonjour, je suis en compagnie donc de Pierre Baudraco et de Caroline Corbal. Nous allons parler donc d'un événement qui se passe les 5 et 6 décembre 2018 à Aubervilliers, près de Paris. Donc c'est le Paris Open Source Summit. Alors déjà, je vais demander à Pierre et Caroline de se présenter rapidement. Pierre.
Bonjour, donc Pierre Baudraco. Je suis président du programme de l'édition 2018 du Paris Open Source Summit. Je suis également président d'un éditeur de logiciels libres qui s'appelle BlueMind.
Alors BlueMind, c'est un concurrent libre à Microsoft Exchange, si je me souviens bien.
Exactement, la messagerie collaborative.
Donc Caroline, peux-tu te présenter rapidement ?
Bonjour, Caroline Corbal. Donc j'ai eu le plaisir cette année de coordonner la thématique écosystème du Paris Open Source Summit. Par ailleurs, je travaille dans une entreprise qui s'appelle InnoCube, spécialisée dans les logiciels libres et l'open data. Et je suis présidente d'une association qui promeut un outil libre de démocratie participative.
Qui s'appelle comment ?
Démocratie OS.
Ok, merci. Donc maintenant, on va commencer par la présentation de cet événement, Paris Open Source Summit. Donc Pierre, peux-tu nous présenter en quelques mots ce qu'est cet événement, quels sont les objectifs, le public attendu, les intervenants qui sont annoncés ?
Alors très rapidement, le Paris Open Source Summit, c'est le plus grand événement européen lié à l'open source. C'est un événement généraliste qui va contenir un espace exposition, donc des sociétés viennent exposer leurs produits, leurs savoir-faire, un grand programme de conférences dont je suis président et dont Caroline est présidente, vice-présidente d'une des thématiques majeures, qui va contenir également un village d'associations associatives, puisqu'une des particularités de l'open source, c'est d'avoir tout un pan lié à la communauté, donc on en reparlera. Et puis un événement qui intéresse aussi des VIP, puisque nous avons l'honneur d'accueillir la ministre Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, des gens de la NSSI, de l'État et diverses personnalités, le CIGREF par exemple.
Alors l'ANSSI, c'est l'Agence de Sécurité de l'État, et le CIGREF, rappelle-moi ce que c'est.
Le CIGREF, en gros, c'est le club des DSI, des 150 plus grandes entreprises françaises.
C'est ce qui regroupe les directions informatiques des grandes entreprises françaises. Donc Caroline, comme l'a dit Pierre, toi tu t'occupes d'un thème qui s'appelle donc le thème écosystème. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, alors la thématique écosystème, cette année, on l'a vraiment vue comme une tribune pour rassembler et valoriser celles et ceux qui ont fait le choix de l'ouverture et de la collaboration pour innover plus efficacement, plus durablement. Et donc il y a des thématiques phares qui sont portées dans ce cadre-là, notamment l'éthique du numérique, puisque la confiance en le numérique en dépend. Donc on va parler de données personnelles, on va parler d'intelligence artificielle, aussi des modèles économiques liés au logiciel libre. On va aussi beaucoup parler de comment l'open source et ce qu'on appelle aujourd'hui l'inner source, donc des pratiques liées à l'ouverture, peuvent accélérer la transformation numérique des organisations. Et on a fait aussi le choix d'apporter beaucoup d'importance à l'inclusion et à la diversité dans cette édition, notamment à la place des femmes dans l'open source, donc dans le numérique en général, mais dans l'open source aussi, avec donc déjà en féminisant plus le programme, mais aussi en ayant des sessions dédiées à ce sujet-là et qui seront très axées solutions pratiques. Comment est-ce qu'on peut apporter collectivement des réponses à ces enjeux ? Donc il y a des femmes de plein de projets, à la fois recherche, d'entreprises, du secteur public, qui vont venir témoigner et apporter des solutions concrètes.
Alors ça c'est super, déjà ça nous montre qu'en fait par rapport aux personnes qui écoutent l'émission, bah, toute personne qui écoute l'émission peut venir, ne serait-ce que sur le thème écosystème, donc le grand public peut venir, peut découvrir effectivement ces conférences, et puis les personnes un peu plus techniques ou un peu plus connaisseurs de ces sujets peuvent être aussi intéressées par le thème écosystème bien entendu, mais aussi par les deux autres thématiques qui sont donc les thématiques tech pour technique et solutions. Pierre, est-ce que tu peux nous les présenter ?
Alors, effectivement, l'open source, c'est d'origine assez technique, donc c'est des outils informatiques, donc toute la galaxie technique est invitée et vient en général à cet événement. La thématique solution, on a voulu justement ouvrir pour proposer et montrer quelles solutions existaient en open source, en logiciel libre, à destination du grand public et des entreprises, et il n'y a pas besoin de connaître le logiciel libre pour ça. C'est voilà qu'est-ce qui existe en termes de logiciels, d'applications, de gestion ou autre. La thématique écosystème, Caroline en a parlé, c'est tous les impacts de l'open source que peut avoir l'open source sur la société. Et on aura des débats cette année, notamment en conférence plénière, en keynote, sur la souveraineté, en quoi l'open source peut aider à préserver ou garder une souveraineté numérique en France ou en Europe par rapport aux géants américains qui sont très ou trop puissants, et une problématique liée aux compétences, à l'emploi, à l'embauche, c'est pour ça aussi que la ministre, Madame Vidal, vient, puisque c'est un des enjeux phares, le numérique explose, l'open source est un moteur de cette révolution numérique, et aujourd'hui on manque de talents et de compétences, donc il faut favoriser l'émergence de personnes dans ces domaines.
Alors très bien, ça me fait penser d'ailleurs que les gens qui peuvent chercher de l'emploi aujourd'hui dans le logiciel libre, Paris Open Source Summit, c'est le bon moment de rencontrer des entreprises qui recrutent, parce qu'effectivement, vous recrutez des talents. Je suppose que c'est dans toutes les catégories techniques que vous recrutez.
Oui, toutes les catégories techniques, mais même ça peut être commerce, ça peut être marketing, mais effectivement, il y a un gros focus sur la technique. Et d'ailleurs, cette année, au Paris Open Source Summit, on a organisé un forum RH avec les co-organisateurs, notamment Systématique, le pôle Systématique, qui a organisé un grand forum RH pour justement faire un forum, un endroit pour se retrouver par rapport à l'emploi. Donc avec des conférences, avec des job dating, avec un concours, coding party, etc.
D'accord, ça me fait penser à une question. Qui organise en fait le Paris Open Source Summit ?
Alors le Paris Open Source Summit est co-organisé par le pôle de compétitivité Systématique, Paris Région, par la société WeU qui est en charge de la logistique et de la commercialisation de la partie exposition, et par le CNLL, qui est en fait la fédération qui regroupe l'écosystème professionnel du logiciel libre, et qui fournit beaucoup de contenu justement.
Donc le CNLL qui veut dire Conseil National du Logiciel Libre, même si je crois que le nom va évoluer. Mais en tout cas, on peut dire que c'est la structure qui représente un petit peu les acteurs économiques du logiciel libre en France. Et donc, je suppose qu'il y a effectivement une présentation du CNLL avec les deux co-présidents, Stéphane Fermigier et Philippe Montargès. Alors, tu parlais de WeU. Pour les gens qui suivent le logiciel libre depuis longtemps, c'est aussi la structure qui organisait les salons GNU Linux Expo il y a quelques années. Donc, il y a une persistance dans l'organisation. Et une des caractéristiques, justement, ce que tu disais tout à l'heure, Pierre et Caroline, peut-être pouvoir nous donner des détails, c'est sur le parti exposant, le village exposant, qui mélange à la fois donc des entreprises et également des associations et des associations du logiciel libre.
Tout à fait. Donc, il y aura plusieurs stands dédiés aux entreprises de l'open source. Et par ailleurs, il y a un village des associations qui réunit de nombreux acteurs associatifs qui représentent bien la diversité et la richesse en fait des associations du libre. Il y aura également une session pour ces acteurs-là liée à l'outillage des associations. Donc même si vous n'êtes pas une association du libre, vous pouvez aller vous renseigner sur les outils libres que vous pouvez utiliser au sein de votre association, qui sera co-organisée par WebAssos et par l'April. Et on a vraiment souhaité donner une place particulière aux associations qui feront aussi la clôture du Paris Open Source Summit cette année.
Alors merci Caroline pour parler de ça, parce qu'en fait ça fait l'enchaînement, vu que dans l'émission donc du 4 décembre, le sujet principal, ça sera justement logiciel libre et monde associatif, avec notamment Laurent Costi donc, qui intervient à Paris Open Source Summit. Parmi les événements associés, en tout cas les temps forts, j'ai noté, et je crois que tu voulais évoquer ça Caroline, la présence donc de la DSI de l'État, qui va faire une journée ouverte à toutes les personnes de l'administration qui veulent contribuer au logiciel libre.
Tout à fait. Alors l'idée, c'est d'organiser une journée, donc les Blue Hats, les chapeaux bleus. Donc vous pourrez les reconnaître car ils vont vraiment porter des chapeaux bleus sur l'événement. Et l'idée, c'est de rassembler une communauté autour des logiciels libres qu'utilisent ou produisent les administrations, et de lever petit à petit les freins qui peuvent exister à la contribution à ces logiciels libres. Et ça fait notamment suite au fait que l'État a publié récemment, cette année, sa politique de contribution en matière de logiciels libres.
Tout à fait. Et nous aurons l'occasion, donc début 2019, justement d'inviter des représentants de cette structure et qui ont nommé en plus un référent logiciel libre, qui est un libriste de longue date qui s'appelle Bastien Guéry, qui sera présent lui aussi évidemment à Paris Open Source Summit. Pierre, est-ce qu'il y a d'autres événements associés dont tu veux parler? Peut-être le prix des acteurs du libre ou autre événement?
Tout à fait. Effectivement, j'ai présenté le salon, l'événement rapidement. J'ai oublié de mentionner que le Paris Open Source Summit, c'est également une dizaine d'événements associés, comme la remise du prix des acteurs du libre, comme le Forum RH, comme EOL, qui est un événement sur la partie juridique de l'open source, comme le Open Source Community Summit, comme l'Open CIO Summit, donc un petit sommet des grandes DSI. Donc voilà, c'est plein d'événements qui se déroulent dans le cadre du salon. Et je voudrais aussi rajouter, puisque Caroline a parlé du village associatif, c'est que la cérémonie de clôture cette année, donc le deuxième jour, le 6 décembre en fin de journée, est organisée par les associations et sera assez festive. Nous aurons la présence de l'Open Source Initiative, l'OSI, avec son président qui va venir parler, et fêter des anniversaires, comme l'anniversaire de LinuxFR, etc. Donc ça va être festif, venez nombreux déguster et manger ces gâteaux. Et dernier point, le Paris Open Source Summit en chiffres. Le Paris Open Source Summit, c'est 5000 visiteurs, donc vous avez compris que tous les publics sont les bienvenus. C'est un événement qui est gratuit, donc n'hésitez pas à vous préinscrire ou venir directement le jour même. C'est plus de 200 conférences et plus de 150 exposants, donc c'est une vraie grande messe sur l'open source européenne.
Donc effectivement, c'est un événement à ne pas non pas manquer sur le logiciel libre et l'open source. Tu parles des fêtes, effectivement, le site LinuxFR, qui est un site d'information sur le logiciel libre, fête ses 20 ans. Et ça sera à la fois festif et aussi un peu bruyant, parce qu'ils nous ont demandé notre mégaphone, donc on essaiera pas de faire trop de bruit, mais effectivement, en fait, beaucoup de structures fêtent, entre guillemets, leurs 20 ans, parce qu'effectivement, une date marquante dans le logiciel libre, c'est 1998, comme tu l'as dit, avec notamment la création de l'Open Source Initiative et le lancement d'un certain nombre de projets. Avant de vous laisser la parole, peut-être pour des derniers points, on va rappeler les dates, le lieu et comment ça se passe en pratique. C'est-à-dire, est-ce que les gens qui veulent venir doivent s'inscrire? Est-ce que c'est payant? Caroline, est-ce que tu peux nous donner les informations pratiques?
Alors, l'événement est gratuit. Vous pouvez réserver votre badge sur le site internet. Donc, c'est opensourcesummit.paris, l'URL pour y accéder. Et ensuite, le jour J, il suffit de se présenter et de récupérer son badge à l'entrée. Et...
Quelles sont les dates?
Allez, 5 et 6 décembre, donc. Et l'événement ouvre ses portes à 9h et les deux jours.
Alors, le lieu, je l'ai noté parce que c'est au Doc Pullman, donc c'est 87 avenue des Magasins Généraux à Aubervilliers. Alors, rassurez-vous, c'est à 100 mètres de la Porte de la Chapelle et il y a des bus qui arrivent. Pierre, tu rajoutes?
Oui, c'est juste aussi au bout de la ligne 12 du métro, on peut y aller en métro.
Donc on peut y aller en métro, effectivement. Porte de la Chapelle, je crois que c'est la ligne 12 de mémoire. Donc le Doc Pullman, donc c'est les 5 et 6 décembre 2018, donc ça ouvre ses portes à 9h. Vous avez compris aussi qu'il faut être présent le jeudi 6 décembre aux alentours de la fermeture pour profiter du final avec les associations, les différentes fêtes. On va rappeler le site web, donc c'est opensourcesummit.paris, donc pré-réservez votre badge, l'accès est gratuit, mais il faut s'inscrire. Caroline, Pierre, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on conclue?
Non, c'est juste un grand événement très ouvert, on a vu, différents publics, différentes manifestations, des conférences, donc venez nombreux, l'intérêt c'est d'être le plus nombreux possible pour accompagner cette ouverture de la révolution numérique qui passe par l'open source.
Et peut-être pour conclure, un dernier mot pour dire aussi merci à toutes les personnes qui ont contribué à faire de cette édition ce qu'elle va être, et la diversité notamment du programme, parce que là, donc, on est juste Pierre et moi, et puis au comité de programme, on est 5 personnes. Mais par ailleurs, c'est énormément de personnes qui travaillent sur le sujet, qui sont très représentatives de la diversité de l'écosystème, qui viennent du secteur public, du secteur privé, des associations, et qui ont travaillé pendant un an. Donc, un grand merci à toutes ces personnes.
Effectivement, on les remercie. On a hâte d'être donc à la semaine prochaine, donc les 5 et 6 décembre 2018, donc à Aubervilliers, donc près de la Porte de la Chapelle, pour 2 jours autour du logiciel libre. Écoutez, merci Pierre et merci Caroline. À bientôt.
Merci Frédéric.
Merci et rendez-vous les 5 et 6 décembre.
Merci.
Eh bien, vous venez d'entendre une interview avec donc Pierre Baudraco et Caroline Corbal, donc membres du comité de programme de Paris Open Source Summit, donc qui se déroule demain et après-demain au Doc Pullman à Aubervilliers. Alors, vous avez beaucoup entendu parler du terme open source. Pour les gens qui suivent bien l'April, vous savez que ce n'est pas un terme qu'on privilégie. Les termes logiciel libre, donc qui viennent de l'anglais free software, et open source, dans le sens donné par l'open source initiative, sont en pratique désignent exactement à peu près les mêmes logiciels. Mais l'usage de ces deux termes met en valeur des points de vue qui sont très différents. Le mouvement du logiciel libre est avant tout éthique, basé sur le partage de la connaissance et sur l'entraide. Là où le mouvement open source met plutôt en avant les aspects pratiques, économiques des logiciels libres. Et en plus, le terme open source est souvent utilisé pour tromper les personnes et qualifier des logiciels qui ne répondent pas aux critères donnés par l'open source initiative, qui fête donc ses 20 ans dans 2 jours. Donc le terme logiciel libre étant plus précis et renforçant l'importance des libertés, il est privilégié à l'April, mais l'événement s'appelle Paris Open Source Summit. Donc, vous êtes de retour sur Cause Commune 93.1, toujours l'émission de l'April Libre à vous. Comme l'a dit Pierre Baudraco, Caroline Corbal, Laurent Costi interviendra lors de l'événement pour parler de l'outillage informatique libre pour les associations. Et mon collègue également, Étienne Gonu, interviendra dans 2 thématiques. Une thématique sur la directive droit d'auteur et une sur les logiciels libres de caisse, suite à une action très importante menée par l'April et d'autres structures. Donc, le détail du programme, c'est sur le site opensourcesummit.paris. Et les interventions de l'April, vous les retrouvez sur le site de april.org. Donc nous allons changer de sujet, mais pas totalement, vu que Laurent est avec moi. Donc Laurent Costi, donc, tu es administrateur de l'April, tu es co-animateur de notre groupe de travail Libre Association, et tu es directeur adjoint de la Fédération française des MJC. Donc rebonjour Laurent.
Bonjour Fred.
Et Frédéric Pfounder, donc, qui est délégué général au mouvement associatif. Rebonjour Frédéric.
Rebonjour.
Alors déjà, avant d'introduire donc le sujet, d'aborder le détail du sujet logiciel libre et monde associatif, peut-être présenter en quelques mots vos 2 structures, donc Frédéric Fronder sur le mouvement associatif.
Alors le mouvement associatif, c'est une association, ça commence bien, et nous regroupons en notre sein des coordinations associatives qui elles-mêmes regroupent des fédérations, des réseaux associatifs. L'objet du mouvement associatif, c'est de porter toutes les questions de développement de la vie associative en France, de traiter tous les sujets transversaux de développement de la vie associative, voilà, qui concernent de porter la voix des associations, notamment dans les rapports avec les pouvoirs publics, mais pas seulement, et puis d'animer aussi des réflexions interassociatives sur des sujets partagés, des sujets de l'engagement, du bénévolat, mais aussi des sujets du modèle économique, de la relation avec les partenaires publics, etc.
D'accord, le site internet, c'est lemouvementassociatif.org.
Absolument.
Laurent Costi, bon, tu ne vas pas présenter l'April, l'association de promotion et défense du logiciel libre. Le groupe de travail Libre Association, on y reviendra plus tard dans le cadre de l'émission. Mais par contre, tu peux peut-être nous présenter ton activité professionnelle en tant que directeur adjoint de la Fédération française des MJC.
Oui, ben donc je travaille au niveau de la Fédération française des MJC en ayant travaillé préalablement au niveau des régions. Donc ce que je trouve intéressant de pointer là finalement, c'est qu'à la fois j'ai un pied dans le monde libriste en étant administrateur de l'April. Et puis, par ailleurs, je suis confronté au quotidien à la difficulté des associations quand il s'agit de vouloir aller vers le libre. Donc j'ai ces 2 regards. Parfois, je suis confronté à des situations assez complexes, puisque moi, j'aimerais bien aller vers le libre au sein de la Fédération française. Et puis, le quotidien fait qu'à un moment donné, on doit avancer, on doit sortir des fiches de paye avec un logiciel, etc. etc. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure. Mais voilà, je suis confronté au quotidien et tiraillé entre cette volonté d'aller vers le libre et puis la difficulté au quotidien d'avancer. Sur le sujet, quoi.
Alors, on reviendra évidemment sur les difficultés au quotidien. On va commencer donc par faire peut-être un petit point sur le contexte associatif en France, sur l'équipement informatique des associations et les personnes pour gérer cet équipement informatique. Donc, Frédéric Fronder, est-ce que tu veux nous faire un petit point sur justement cet environnement associatif pour qu'on le comprenne mieux, parce que je crois qu'on sous-estime la place du mouvement associatif en France. Les télés parlent beaucoup de l'importance des entreprises, mais le mouvement associatif est très important.
C'est vrai, absolument. Alors un petit panorama rapide, les associations en France, c'est 1,5 million de structures, donc beaucoup. à peu près 20 millions de bénévoles, on estime qu'un Français sur deux est adhérent d'une association. Ce qui est important de préciser, c'est que les associations sont extrêmement diverses dans leur modèle, mais 85% d'entre elles fonctionnent uniquement avec des bénévoles. Après, à côté de ça, il y a 15% d'associations employeuses. La très grande majorité de ces associations employeuses ont un ou deux salariés, donc des toutes petites structures. Le tissu associatif, c'est ça. C'est 85% d'associations qui ne fonctionnent qu'avec des bénévoles, des gens qui donnent de leur temps. Un peu de temps, beaucoup de temps, ça dépend, mais voilà, qui donnent de leur temps gratuitement. Et puis, un certain nombre de petites structures employeuses, mais avec, encore une fois, un ou deux salariés qui sont là pour aider les bénévoles à remplir l'objet social de la structure, et voilà, et qui vont gérer des aspects administratifs, ce type de choses. À côté de ça, il y a de très, très grosses associations. Il y a des moyennes associations, deux très, très grosses associations. On ignore parfois à quel point elles sont grosses. Hein. L'APF France Handicap, par exemple, c'est 11 000 salariés. Aussi énormément de bénévoles, mais c'est 11 000 salariés. Bon, on peut en citer quelques autres que tout le monde connaît, hein, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, Médecins du Monde, sont des associations, Emmaüs, la Fédération française des MJC, et d'une plus petite taille, évidemment, on n'est pas sur 11 000
salariés.
Voilà, ouais. Mais c'est une grosse structure associative. Pour les associations, 170 salariés, c'est beaucoup. Donc voilà, pour un panorama très rapide et pour placer le contexte des associations, de ce que sont les associations. Elles sont présentes partout sur les territoires et sur des secteurs d'activité extrêmement divers. Les associations, c'est le sport, c'est la culture, l'éducation populaire, les loisirs, les colonies de vacances, l'animation, l'accueil d'enfants, l'accueil périscolaire, c'est aussi beaucoup dans le sanitaire médico-social. Il y a beaucoup de crèches qui sont des crèches associatives, des hôpitaux qui sont aussi associatifs, ce qu'on sait assez rarement. Voilà, donc c'est une très, très grande diversité d'actions, une très grande diversité de modèles. Du coup, une très grande diversité de besoins aussi, évidemment, dans l'équipement informatique comme dans les compétences générales. Alors, si on parle de l'équipement, c'est vrai que là aussi, c'est compliqué de faire des généralités compte tenu de la diversité. Hein. Les associations, comme après, toutes les structures et les citoyens, ont progressé dans leur équipement informatique, hein, évidemment, au fil des années. Voilà, être outillé en informatique, en numérique et faire appel aux outils numériques, c'est une nécessité pour le tissu associatif, comme ça l'est dans la vie quotidienne d'à peu près tout le monde. Il y a une étude de Recherche et Solidarité qui a été faite en 2013, puis en 2016, qui montre bien qu'il y a une évolution continue dans ce domaine-là. 72% des associations sont équipées d'un site Internet. Donc 72% sur les 1,5 million de structures, ça fait quand même...
Ça fait beaucoup de sites. Hein.
Ça fait beaucoup de sites.
Je précise que l'étude dont tu parles, et la référence est sur le site de l'April pour les personnes qui veulent aller plus en détail.
Voilà. Alors évidemment, ça va être des sites d'une qualité inégale et qui ont une utilité différente en fonction des associations. Ça peut être juste un site vitrine ou des sites ressources beaucoup plus importants. Mais voilà, les associations se tournent évidemment vers ces outils. Beaucoup d'associations de plus en plus utilisent les réseaux sociaux, évidemment. Et puis, on voit aussi une très, très nette progression de l'utilisation des outils collaboratifs. Sans doute parce que là, ça répond aussi à un point essentiel de l'activité associative.
Qui est pratique.
Et oui, à une pratique qui est de faire parler les gens ensemble, voilà, de collaborer, concerter, élaborer une parole collective, parce que c'est bien ça qui est au plus profond des associations, c'est la construction collective, l'intelligence collective, les outils collaboratifs. Pour ça, c'est quand même vraiment bien. Donc ça, voilà, ça fait partie des progressions importantes de ces dernières années en termes d'équipement pour les associations, ce qui veut bien dire qu'il y a un besoin important. Mais il y a aussi un besoin de compétences, et là, c'est plus compliqué. Ce qui est relevé par les associations dans leurs difficultés pour ça, c'est bien une question de temps, une question de moyens, une question de compétences en interne. On y reviendra sans doute dans les discussions, que ce soit pour le libre ou plus globalement pour l'équipement numérique de façon générale, quoi, en fait. Hein. Ça n'est même pas que pour le libre.
Ce tour de raison concerne effectivement l'informatique en général.
Tout à fait.
On prend conscience qu'effectivement, à partir du moment où tu nous dis que 85% des associations, il n'y a que des bénévoles, forcément, l'informatique va être gérée par des bénévoles qui connaissent plus ou moins un système et qui vont peut-être orienter des décisions.
Absolument. Ceci dit, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une assez bonne connaissance du principe du logiciel libre, en tout cas, dans les associations. Les associations interrogées, pour beaucoup d'entre elles, on dit connaître l'idée du logiciel libre et soit être déjà équipé, soit avoir envie d'y aller. Donc, il y a une marge de progression intéressante en la matière.
Laurent, tu veux réagir là-dessus ?
Oui, on a vu, dans le cadre du groupe de travail de l'April Libre Association, on a fait plusieurs enquêtes aussi, alors très modestes, hein, par rapport à Recherche et Solidarité, mais ne serait-ce qu'avec ces enquêtes en 2008-2009 et puis 2014-2015, on a vu le changement un peu d'état d'esprit des associations, c'est-à-dire qu'en 2008-2009, la question c'était plutôt « mais c'est quoi les logiciels libres ?» alors que 10 ans plus tard, on avait la question « mais comment on fait pour y passer ?» Donc on sent bien quand même un changement de mentalité par rapport aux logiciels libres, une connaissance au moins du nom et de ce que ça peut représenter.
Et de leur usage, je suppose, en interne, mais on y reviendra par rapport au type de logiciel. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur cette partie-là, Frédéric ?
Non, je pense que ça fait un panorama déjà assez vaste et encore une fois qui montre toutes les potentialités. Donc voilà. Il y a certainement un gros travail d'information, d'éducation à faire, mais en tout cas, voilà, l'intérêt existe, le besoin existe. Les associations ont plein d'usages à faire du numérique et donc là-dessus, les outils du libre peuvent sans doute correspondre à beaucoup d'entre eux.
Alors justement, on va arriver à ce sujet du lien entre monde associatif et logiciel libre. Je pense juste que j'ai oublié de citer le site web de la Fédération française des MJC, donc c'est ffmjc.org. Et le groupe de travail Libre Association, c'est libreassociation.info, même si on y reviendra tout à l'heure. Alors justement, Laurent, pourquoi les valeurs du logiciel libre rejoignent-elles celles du mouvement associatif? Et finalement, pourquoi c'est plus qu'un outil pour le mouvement associatif, le recours au logiciel libre?
Alors moi, j'avais travaillé un peu la question plutôt dans le lien logiciel libre éducation populaire. Donc c'est finalement une forme un peu restreinte du mouvement associatif dans son ensemble, hein, puisque tout à l'heure, on a cité la santé, on a cité le sport, etc. L'éducation populaire, même si évidemment, il y a des croisements, il y a une partie du monde associatif qui se reconnaît dans l'éducation populaire. Et donc c'est plutôt ce lien-là que j'avais travaillé entre les valeurs de l'éducation populaire et puis les valeurs du logiciel libre. Alors j'avais fait un master sur la question, je vais vous épargner la longueur du texte, hein, mais peut-être que je peux résumer justement par le lien entre les quatre libertés du logiciel libre et puis ce qui fait lien avec les valeurs de l'éducation populaire. Donc si vous vous souvenez des quatre valeurs du logiciel libre, vous avez la liberté d'utilisation. Donc là, très clairement, contrairement à un logiciel privateur, les utilisatrices et les utilisateurs sont égaux devant l'utilisation. On n'a pas de discrimination en fonction des aspects financiers, en fonction des aspects techniques, etc. Donc ça, c'est une première chose qui met les utilisatrices et les utilisateurs sur le même pied d'égalité. Et ça, c'est quelque chose qui rejoint un peu tout ce qu'on défend au sein de l'éducation populaire et plus généralement souvent quand même au niveau des valeurs associatives. La deuxième liberté pour le logiciel libre, c'est bien la question d'étudier le programme. Alors, là, très clairement, c'est l'ouverture à l'esprit critique. Tant que les choses sont accessibles, ça veut dire qu'on autorise les gens à se pencher sur la question, à regarder, à observer, à critiquer, à poser des questions. Donc on est encore une fois dans la progression du citoyen pour qu'il puisse soit s'outiller lui-même, soit demander à d'autres pour qu'il soit aidé et comprendre les choses. Si le logiciel est fermé, en aucun cas, on peut aller voir ce qui se passe dedans et essayer de comprendre, quoi. Même si, bien sûr, il y a des questions de compétences au départ, mais en tout cas, on comprend bien l'esprit. Et l'esprit au départ est important, à mon avis. La troisième liberté, c'est la question de modifier le programme. Alors pour nous, alors en plus, je viens initialement d'un monde associatif sur la question de la culture scientifique et technique. Donc évidemment, la question du droit à la bidouille, elle est vitale dans l'éducation populaire.
Qu'est-ce que t'appelles la bidouille ?
Le droit à la bidouille, mais ça veut dire le droit à mettre les mains dans le cambouis et essayer de comprendre comment c'est fait. C'est vital pour le citoyen à un moment donné, mais que ce soit un programme ou que ce soit une loi ou que ce soit à un moment donné, il faut s'intéresser aux choses. Et si on nous ferme la boîte et qu'on n'a pas le droit de s'intéresser aux choses, ça veut dire qu'on nous demande d'être des moutons, des lemmings, tout ce qu'on veut, quoi. Et on doit faire ce qu'on nous dit et on n'a pas d'autre choix dans la vie. Enfin, là, on va vers une société totalitaire ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, ça va pas dans le sens d'un monde citoyen et où chacun prend ses responsabilités, à mon avis. Donc ça, c'était la troisième liberté. Et puis, la quatrième liberté de redistribuer le programme, bah là, on rejoint toute la question de l'intérêt général et du bien commun. C'est-à-dire que là, on nourrit tout ce qu'on fait, ça sert aux autres, et on garde pas ce qu'on a fait pour soi en espérant tirer parti de ça, et puis surtout d'abuser des autres, quoi. Parce que voilà, ça ouvre sinon dans des perspectives vraiment négatives, quoi, de mon point de vue. Donc voilà, la quatrième liberté, redistribuer l'intérêt général, le bien commun. Ça, on sait très bien que le logiciel libre rejoint vraiment cet esprit des biens communs, enfin des communs en général.
Donc finalement, c'est une approche de l'informatique qui n'est pas du tout technique, mais qui est totalement politique et sociétale, en fait.
Alors, Complètement, et ça fait le lien aussi à un point qu'on avait soulevé dans notre enquête avec les associations, c'est que un des problèmes vis-à-vis de l'informatique, c'est que c'est considéré par les conseils d'administration comme quelque chose de technique. Donc comme c'est technique, c'est pas quelque chose qui doit être posé, discuté en conseil d'administration. Et ça, je trouve que c'est une vraie erreur. C'est une vraie erreur parce que l'outil est technique et l'outil est aussi source de pouvoir. Donc à un moment donné, faut absolument pouvoir maîtriser ces enjeux-là pour ne pas que l'association soit manipulée par ailleurs, quoi. Voilà. J'ai eu le cas là. J'intervenais dans un centre social sur la question des logiciels libres samedi dernier. Ils ont vraiment pris conscience que c'était important et du coup, ils ont posé cette discussion-là en conseil d'administration et à partir de ce moment-là, des actions sont nées. C'est-à-dire qu'ils ont, c'est dans la discussion au sein du conseil d'administration qu'un plan d'action a été mis en œuvre, même modeste, mais en tout cas, prenant en compte la question du logiciel libre, de la migration et puis de perspectives pour aller vers une informatique plus respectueuse des utilisatrices et utilisateurs.
Et ça, c'est relativement récent. Je pense que ça confirme un peu ce que disait tout à l'heure Frédéric Fronder, justement, sur cette prise de conscience et le fait que c'est avant tout, effectivement, quelque chose de politique et qui ne dépend pas que des militants de terrain, mais que les structures dirigeantes doivent aussi accompagner.
Alors, je partage totalement tout ce qui a été dit, évidemment. Mais les associations, elles sont comme les citoyens, forcément d'ailleurs, puisqu'elles sont constituées de tous ces citoyens. Et cette méconnaissance, finalement, du logiciel libre, de ses enjeux au regard du monde informatique, c'est assez largement partagé. Je pense qu'il y a un certain nombre de sujets aujourd'hui qui amènent à une meilleure connaissance, en tout cas plus d'inquiétude, qui entraînent la nécessité pour les uns et les autres de s'intéresser. Je pense que la question des données personnelles va quand même commencer à être de plus en plus saisie. Les associations y sont forcément confrontées, parce qu'elles ont beaucoup de fichiers, forcément, etc. Que donc, tous ces questionnements autour des données personnelles vont aussi les obliger à s'interroger sur ces questions-là et en faire des sujets plus politiques que techniques. C'est vrai qu'en général, dans une première appréhension, ils sont très techniques. Il nous faut un site internet, il nous faut un logiciel de traitement de texte, il faut qu'on puisse gérer nos mails. Bon, et puis chacun va amener sa compétence, celle qu'il a chez lui dans sa maison, en disant bah tiens, voilà, moi j'utilise ça, c'est pratique. Bon, voilà.
Oui, ils vont surtout utiliser ce qui est imposé au quotidien.
Et ce qui est imposé au quotidien, ce qui est plus facile.
On n'a pas le choix. Enfin, pour...
Absolument. Alors ça, il y a la question de ce qui est imposé, la question de ce qui est facile.
C'est la question de la vente forcée, qui est effectivement ordinateur, logiciel.
Bon, et puis surtout l'absence de questionnement, effectivement. Et puis une association dans son conseil d'administration, elle va s'intéresser à son objet social. Bon. Donc, une association qui a pour objet la lutte contre la pauvreté, dans son CA, elle traite de la question de la lutte contre la pauvreté. Elle ne traite pas de l'équipement informatique de sa structure. Mais ce qui est un tort, parce qu'effectivement, les valeurs associatives, il faut les faire vivre dans le projet qu'on porte, mais au sein même du projet, évidemment. Ce qui est une association, c'est avant tout un collectif démocratique, un lieu de construction collective, d'élaboration collective, d'implication citoyenne. Et ça doit passer aussi par le fonctionnement interne de l'association. Et là-dessus, c'est sûr que la question des outils utilisés, de tout point de vue, et doit se poser. Alors, voilà, elle ne se pose pas pour la question informatique, alors qu'elle va se poser, par exemple, pour l'équilibre des votes au sein du conseil d'administration. Mais finalement, il faut aller plus loin et se dire que les outils qu'on utilise au quotidien sont aussi des éléments du projet. Bon, ça ne se fait pas dans toutes les associations, mais il y a une appétence pour ça, sans aucun doute. Et il faut que ça soit posé comme un enjeu, clairement.
Alors, je suppose aussi que c'est compliqué parce que c'est relativement récent, finalement. On a l'impression que l'informatique est très ancienne, mais... C'est vrai que l'informatique est très ancienne, mais les bouleversements en moins de 10 ans, notamment avec l'arrivée des réseaux sociaux, les géants de l'Internet qui révolutionnent tout. Là, aujourd'hui, il y avait la présentation de la nouvelle Freebox qui va encore plus loin dans l'espionnage d'un certain point de vue, vu que Alexa est installée, donc le micro d'Amazon est installé par défaut sur la Freebox. Donc on va vraiment dans un chamboulement complet. Donc on peut comprendre effectivement que le monde associatif, comme tout le monde, a du mal à percevoir, mais en tout cas à se positionner. Parce que ça nécessite du temps, des échanges, etc. Donc c'est quelque chose qui n'est pas on peut pas critiquer ça, on peut juste le constater et qu'effectivement, il faut discuter pour pouvoir mettre en place des solutions.
Oui, le temps institutionnel associatif est long, c'est un temps long. Il faut laisser mûrir les réflexions, il faut re-questionner, réinterroger le projet, etc.
Alors je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. Attention, ça va bouger parce que c'est un groupe donc de Montréal qui s'appelle Tintamarre et le morceau s'appelle Downtown.
Cause commune. Downtown. What the hell's going on? Je me dis t'en regardant mon nom, me fait dans un pack. Me dis que le soleil se sert de moi comme obstacle. Et observer le contraste de mon corps reflet inversé. Ça, c'est mon mot, qu'il y a une bonne moitié de moi qui est éclairé. C'est sûr, c'est l'été, il y a une chose qui est claire. C'est que tu vois ton nom bien plus souvent qu'en hiver. Sauf downtown. Le monde sont bien trop en amour avec leur tour. Mais les moutons y ont toujours de la laine. À l'ombre ils sont bains, il fait pas trop chaud. Mais si le soleil frappe, faut y avoir la crème dans le bureau. Depuis le contrôle du feu jusqu'à la température, ils boudent le soleil parce qu'il leur fait la vie dure. Ça se voit downtown. Les gens veulent pas de chaleur, mais ça va là. Je croise une cravate puis des talons hauts. Je leur demande c'est quoi le trip avec le tout si haut. Je comprends que quand il pleut, t'es un parapluie. Mais tes lunettes humides, t'en as sûrement pas besoin ici. C'est tellement sombre, les lampes à tête de fenêtre ou pas. Genre l'allégorie, la caverne, moderne dans l'envers. Ils me disent downtown. On se fait pas d'illusions, mais des millions. Face à une réponse si futile et débile, je me dis que le monde ici n'a rien à m'apporter d'utile. Sur tête de Pookie, le SDF, ouais, tout dit. Moi, il demandait qu'est-ce qu'il y aurait pas de bon à me dire. La vie me chie dessus, je suis perdu dans le fond du trou. Le soleil, je cherche plus d'aller pas quelque chose. Ça se voit downtown. Produit la misère, ça n'a pas lieu. Toujours long des arbres ou de la petite pierre. En se disant que downtown, c'est la dernière place où je voudrais être.
cause-commune.fm
93.1. Ben vous venez d'entendre Downtown du groupe Tintamarre. J'espère que vous avez apprécié ça dans vos oreilles. Si vous n'avez pas compris toutes les paroles sur le site de l'April, vous avez le lien vers ce groupe et non seulement le fichier musical, mais il y a aussi les paroles. Donc vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. L'émission actuellement est consacrée donc logiciel libre et monde associatif, donc avec Laurent Costi, administrateur de l'April et directeur adjoint de la Fédération française des MJC, et Frédéric Founder qui est délégué général le mouvement associatif. Donc juste avant la pause musicale, nous parlions du rapprochement des valeurs entre le monde du logiciel libre, monde de la associatif, éduc-pop, économie sociale et solidaire. Et nous parlions aussi de la complexité de la prise en compte de la partie logicielle par les conseils d'administration d'associations. Frédéric, j'ai envie de te questionner un peu aussi sur la prise en compte par le mouvement associatif de cette question du logiciel libre. Quelle est la position, ou en tout cas les positions que pourrait avoir le mouvement associatif, les perspectives sur ce sujet?
Alors, le mouvement associatif, la structure, donc, n'a pas pris de position formelle sur le logiciel libre ou en disant il faut que les associations utilisent toutes des logiciels libres, etc. De toute façon, ce n'est pas notre vocation. Hein. On ne donne pas d'instructions au monde associatif. De toute façon, on aurait tort d'essayer parce que bon, on n'y arriverait certainement pas, et tant mieux d'ailleurs. Voilà. En revanche, ce sur quoi on essaye de travailler, c'est de sensibiliser les associations aux enjeux du numérique. Et évidemment, le recours au logiciel libre en fait partie. Donc, on a plusieurs projets en ce sens-là, enfin, plusieurs actions dans ce sens-là. On a monté un projet collectif qui s'appelle Résolution numérique, qui a été déployé dans les régions avec un certain nombre d'acteurs où on traite de différentes questions relatives à l'utilisation du numérique, des outils informatiques par les associations, en essayant de leur donner des clés, des informations, de l'outillage. Évidemment, la question du libre fait partie de cet ensemble dans résolution numérique. Quand on fait une journée résolution numérique en région, en général, il y a toujours des acteurs du libre, plutôt des acteurs locaux d'ailleurs, qui sont présents et qui viennent sensibiliser, exposer, partager.
De manière effectivement à montrer que ça existe et que des acteurs locaux sur le terrain existent pour accompagner éventuellement les structures.
Pour accompagner celles qui le souhaitent, voilà. Et encore une fois, pour sensibiliser les acteurs associatifs à ces enjeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le logiciel libre par rapport à d'autres? Voilà. D'ailleurs, alors résolution numérique, pardon, il y en a une nouvelle édition. Il y a une nouvelle édition à Arras dans 2 jours, donc dans les Hauts-de-France. Pour ceux qui sont dans les Hauts-de-France, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous rencontrerez plein d'acteurs du numérique. On va avoir un petit échange débat dans le cadre d'un cycle de conférences qui s'appelle Du piment dans la sauce, que le mouvement associatif organise. Pareil pour les associations, pour les sensibiliser à un certain nombre de questions. Sur leur structure même. Et donc là, le prochain piment dans la sauce, il est sur le numérique. On a appelé ça Association Les Pigeons du Web. Bon, c'est un peu un raccourci. Mais justement, pour essayer de pointer cette question-là, je parlais de données personnelles tout à l'heure, des réseaux sociaux comme Facebook sont très désireux d'avoir plein de flux, et notamment de flux associatifs sur leur réseau. Est-ce que toutes les associations se posent vraiment des questions sur ce qui est fait des données, pourquoi est-ce qu'il faut vraiment y aller et pourquoi il ne faudrait pas y aller, enfin voilà. Bon, toutes
et
ces questions-là.
Et quelles alternatives existent?
Absolument.
On pense notamment aux services proposés par Framasoft dans le cadre de Chaton, donc collectif des hébergeurs autonomes neutres, transparents et solidaires, et qui SM, parce que d'autres structures proposent les mêmes services alternatifs effectivement aux géants du web. L'April, par exemple. Absolument. Le chaton de l'April s'appelle chapril.org. Je fais un peu d'autopromo.
Et avec un nom pareil, on se demande bien comment on pourrait ne pas vouloir l'utiliser.
Exactement. Bon. Le piment dans la sauce, c'est quel jour?
Alors, c'est le 18 décembre.
À Paris?
À Paris, au Cano, donc à Stalingrad. Voilà, c'est ouvert aux acteurs associatifs. Hein. Il suffit de s'inscrire. On trouve toutes les infos sur notre site internet. Voilà, c'est ouvert à tout acteur associatif, bénévole, salarié d'association qui veut venir échanger sur ces questions-là. On fait ça sous forme de débat mouvant. On essaye de faire en sorte que ça soit un peu dynamique et non pas sous forme de conférences trop fermées. Donc voilà, c'est le type de choses qu'on essaye de faire au mouvement associatif pour ouvrir, sensibiliser. Il est bien évident qu'on pourrait aller plus loin. J'espère bien qu'on ira plus loin. Et pour être tout à fait honnête, au sein de notre conseil d'administration, par exemple, nous n'avons pas discuté de ces questions-là pour savoir si nous-mêmes devions nous équiper avec du logiciel libre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, même si on utilise assez largement les outils de Framasoft. Mais nous ne sommes pas totalement passés au libre.
Voilà, pas totalement, parce que je suppose que, comme beaucoup de structures, vous utilisez en grande partie le mouvement associatif du logiciel libre. Il y a un dernier projet dont je voulais éventuellement que tu dises quelques mots, c'est le projet Solutions d'association, qu'on a contribué l'an dernier.
J'ai oublié, tout à fait. Alors, qui est un projet qu'on a co-construit avec la Fonda, donc, qui est une association aussi qui travaille sur la prospective associative. On va dire. L'idée de Solutions d'association, c'était de mettre en valeur des initiatives portées par les associations pour répondre aux enjeux de société. Et effectivement, on a fait un appel à contribution auprès des associations pour toutes celles qui souhaitaient mettre en avant, faire connaître leurs réponses aux enjeux de société. Et l'April a effectivement contribué sur la question du logiciel libre. Et ça fait partie aujourd'hui de notre banque de données sur les solutions associatives pour changer le monde.
Exactement. Donc la référence est sur le site de l'April si vous la cherchez. Donc bon, on a bien compris que pour l'instant, effectivement, il n'y a pas une position prise en conseil d'administration. J'aurais tendance à dire pas encore. Nous aurons l'occasion sans doute de refaire une émission peut-être dans quelques mois avec les évolutions.
Ouais, ceci dit, je précise quand même que le mouvement associatif n'a pas vocation à prendre position sur, à trancher des questions de société de ce type-là. Oui. On travaille sur les questions de vie associative. Donc évidemment, comme on a pu le souligner, hein, la question du logiciel libre a un lien avec les valeurs associatives et donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait dans nos perspectives. Bon, de là à dire le monde entier d'Open Solutions Libre, ça n'est pas le rôle du mouvement associatif. Voilà.
Non, mais je vous rassure, Frédéric n'avait pas préparé un engagement à signer en sortant en disant le mouvement associatif dans un an est sous logiciel libre, sous tous les aspects.
Je ne sais pas.
Non, je n'avais rien préparé, on y va par étapes. Merci en tout cas à Frédéric pour ce petit point d'étape. Laurent, donc on a parlé beaucoup de logiciels libres, de valeurs, mais on va peut-être rentrer un petit peu dans les détails sur les logiciels libres utilisés par le monde associatif, sur est-ce qu'il y a des évolutions, et aussi la fameuse question du système d'exploitation entièrement libre, c'est-à-dire du poste de travail entièrement libre.
Oui, alors effectivement, de toute façon, la question de la migration, c'est quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose qui s'étudie, qui prend du temps, qui se fait en fonction du contexte de l'association. Encore une fois, le panorama des associations est tellement divers qu'il n'y a aucune règle qui peut s'appliquer à toutes, et évidemment. Après, il peut y avoir des préconisations. Hein. Une des étapes généralement recommandées, c'est de se dire que sous environnement privateur, on installe plutôt des logiciels libres. Par exemple, LibreOffice pour tout ce qui est bureautique. Le tableur, le traitement de texte, la présentation éventuellement, potentiellement de la base de données. Ça c'est quand même une base qui est une première étape. Alors évidemment, les gens habitués à la position de certains icônes, certains menus... vont avoir des réticences parce qu'on bouscule leurs habitudes, leur zone de confort. Donc, il faut accompagner ça. Il faut préparer des petits tutoriels, de l'accompagnement, rassurer les gens. Mais si ta fonction, elle existe quand même aussi sous LibreOffice. Donc, ça se prépare. Sur le courriel, par exemple, Thunderbird peut faire l'affaire et peut être une bonne alternative à la solution propriétaire qui est native souvent sous Windows, qui est Outlook. Et évidemment, avant tout ça, avant même de décider ce qu'on pourrait mettre comme logiciel, il faut faire un état des besoins de chaque personne. Quand il y a des salariés, par exemple, la chargée de communication n'a pas les mêmes besoins que la comptable, que le chargé d'action, etc. Donc il faut bien identifier les besoins des personnes pour ne pas effectivement traiter tout dans l'ensemble. Et il y aura peut-être d'ailleurs une démarche de migration différenciée, parce qu'il y a des logiciels encore pour lesquels on n'arrive pas à se passer de Microsoft Windows. La comptabilité, ça reste encore compliqué. La paye, c'est pratiquement exclu. Donc, ces postes-là, pour l'instant, on n'a pas de perspective pour les faire migrer sous une distribution GNU Linux, par exemple. Donc oui, il y a des précautions à prendre. Après, sur le détail des logiciels qui existent, la retouche photo, GIMP, tout ça, vous les trouvez sur les sites tels que l'April, Framasoft, qui a développé une page qui vous permet d'avoir la correspondance du logiciel libre correspondant au privateur que vous utilisez.
Le site, c'est framasoft.org.
Voilà, merci. Et puis, dans leur campagne dégooglisons Internet, ils avaient pas mal travaillé sur la question, réactualisé leur correspondance, on va dire. Il faut prendre du temps pour justement préparer un peu cette transition-là, quoi. Et puis, quand les gens commencent à être habitués, une fois qu'il n'y a plus de logiciels qui font barrage, peut s'envisager la migration sous un système d'exploitation libre. C'est pareil, encore une fois. Les systèmes d'exploitation libre ont fait beaucoup de progrès par rapport à il y a 10 ans. Donc, c'est vrai que même quelqu'un qui n'a pas beaucoup de compétences techniques, normalement, au quotidien, s'il est un peu accompagné, ça se passe très bien, quoi. Voilà.
Oui, c'est clair que quand on compare il y a 10 ans les environnements de bureaux logiciels libres aujourd'hui, ça n'a strictement rien à voir. Il y a 10 ans, on n'encourageait pas forcément des gens à migrer comme ça au logiciel libre, enfin sur environnement entièrement libre.
Ça, je veux bien faire une petite parenthèse. Mon côté associatif, là, pas mon côté libriste, on a quand même eu cette tendance-là à survendre, entre guillemets, les systèmes d'exploitation.
Certaines personnes ont peut-être certaines eu tendance, nous, on n'a jamais survendu, justement,
Le monde associatif, ça a parfois été perçu comme ça,
c'est un problème des militants peut-être libristes qui disent migre complètement, tenir compte du besoin de la personne et de la réalité des choses, alors que c'est pas du tout la façon qu'il faut faire.
Et du coup, les gens n'étaient pas prêts, donc du coup, les gens ont été confrontés à un mur, et finalement, ont été vaccinés pour 10 ans, et ont pu du tout envie de revenir vers le logiciel libre. Donc, faut qu'on arrête avec cette idée reçue qu'on passe au libre très facilement, que c'est plug and play, etc. C'est pas si simple que ça.
Pourquoi donc, plug
ça,
and play
Pardon. qu'on branche et ça marche. Hein. Bon, voilà, des fois, ça marche pas. Mais comme le logiciel privateur, d'ailleurs, on s'en rend pas compte dans le logiciel privateur parce qu'on a que ce choix-là et puis on fait plus attention. Mais voilà, l'informatique, parfois, il faut pouvoir se pencher sur la question et essayer de résoudre les problèmes. Voilà, il y a des fois, ça marche pas. Voilà. Des fois. Bref.
D'où l'importance de l'accompagnement humain.
Voilà, tout à fait. Donc voilà, un petit peu, c'est plutôt une logique, c'est plutôt une démarche, quoi. C'est plutôt une progression, c'est plutôt prendre le temps, l'accompagnement au changement, ça c'est primordial dans les associations, mais que ce soit sur l'informatique et sur toute autre chose, hein, dans le projet, c'est systématiquement ça. Un nouveau projet dans une association, bah, il va falloir changer des choses, il va falloir se mettre un peu en danger, donc ça fait partie de cette logique-là, quoi. Voilà.
En précisant que effectivement cette démarche progressive permet un accompagnement effectivement sur la durée, parce qu'en fait les logiciels dont tu as parlé sont à la fois disponibles sur environnement privateur Microsoft Windows par exemple, mais aussi sur environnement libre. Donc en fait une fois qu'on a commencé comme ça par les outils type LibreOffice, The Gimp ou autre, effectivement la migration vers l'environnement complètement libre est plus simple entre guillemets. Et je reviens sur le fait quand même que les environnements aujourd'hui ont très nettement progressé et que, alors l'une des difficultés peut-être c'est aussi, on en parlait tout à l'heure, le fait que les associations quand elles achètent du matériel, bah, c'est souvent préinstallé avec un Microsoft Windows ou autre environnement privateur, et donc effectivement l'effort pour aller vers autre chose, bah, il est important parce que les gens ont déjà quelque chose d'installé. Donc si au moins un jour on avait la possibilité d'avoir le choix de son système d'exploitation sur les ordinateurs qu'on achète, ce serait quand même une grande avancée pour la liberté de choix et pour les libertés.
Pour préparer l'émission, j'ai interpellé un directeur sur la Maison Phare à Dijon parce que je savais qu'il avait engagé ce processus un peu de migration, qu'en tout cas il voulait
alors,
aller vers lui.
Ça, vas-y.
Voilà, bah, du coup, je l'ai interpellé un peu sur les difficultés qu'il pouvait rencontrer au quotidien. Alors, de fait, mais on l'a déjà évoqué, mais du coup, là, j'ai vraiment un retour concret de la complexité qu'il a eu au quotidien. Il reste toujours convaincu à ce jour, hein, mais c'est vrai qu'ils ont fait deux pas en avant, un pas en arrière pour pouvoir continuer le processus. Bon, évidemment, il y a toute la question de la culture imposée, quoi. Enfin, c'est exactement ce que tu disais à l'instant, quoi. Le fait qu'on achète une machine, c'est Microsoft dessus, et on ne nous laisse même pas la possibilité de penser qu'il pourrait y avoir autre chose. Enfin, c'est quand même un monde imposé, quoi, et ça c'est un peu difficilement supportable pour le monde associatif, pour certaines personnes quand même. Donc voilà, les gens sont habitués à quelque chose et les faire changer d'habitude, ça reste très compliqué, quel que soit le sujet. Ils ont, dans un premier temps, en démarrant le projet, ils ont essayé directement de passer sous système, non, de mettre un dual boot, hein, ce qu'on appelle un dual boot, donc à la fois le système Windows et à la fois sur le même ordinateur
un double amorçage,
voilà, et laisser le choix aux gens. De fait, naturellement, les gens restaient sous le système Windows, bah oui, ils sont habitués à ça, c'est normal. Et puis par ailleurs, en plus, visiblement, la version n'était pas stable, il y avait des bugs sous Linux, donc là, du coup, on avait sous GNU/Linux, donc on avait deux systèmes concurrents. Et puis un qui n'était pas complètement bien configuré. Donc de fait, c'est pareil, les gens restaient sous. Ça donnait une raison de plus de rester sous Windows à ce moment-là. Après, effectivement, ils sont du coup restés plutôt sur une démarche sous Windows et ils ont fait cette démarche qu'on évoquait tout à l'heure de mettre des logiciels libres sous système d'exploitation privateur. Donc ils utilisent le traitement de texte. Bon, a priori, ce qu'ils me disaient, c'est que pour l'instant, il y avait juste un logiciel qui leur posait souci, qui était un logiciel de montage vidéo, qui est encore un logiciel privateur. Bon, voilà. Mais en tout cas, ils avaient commencé à éliminer la majeure partie des logiciels libres, autres que ce logiciel-là. Alors peut-être par habitude de l'animateur, hein, je ne sais pas, parce qu'effectivement, des logiciels vidéo, moi j'en connais sous... Je ne les utilise pas beaucoup, donc je ne les ai pas pratiqués beaucoup, mais je sais qu'il en existe sous GNU/Linux. Bon, après, ils avaient quelques difficultés avec les partenaires, les institutions. Par exemple, ils sont... alors centre social, enfin oui, ils sont centre social, donc ils ont des liens avec la CAF. Et puis par rapport au format de fichier, ils avaient parfois des problématiques avec la suite Microsoft.
La compatibilité de format de fichier.
Ouais, tout à fait.
Pour l'outil de vidéo, il y a notamment Blender qui est de l'avis de beaucoup de gens. Alors, je ne sais pas si ça répondait aux besoins exactement. En tout cas, il y a plusieurs
Blender,
outils.
C'est plutôt de la 3D. On est plutôt sur...
Alors peut-être. Alors, en fait, je vais avouer que je ne suis pas un expert. Donc voilà. Mais en tout cas, ça existe. Ouais,
parce
après,
que Blender, ça ne répond pas. Par contre, je sais qu'il y a d'autres logiciels de montage vidéo plus...
Bon. Voilà.
Bon, donc on reviendra vers eux éventuellement pour les aider. Alors, C'est pareil, ça c'est aussi une question qu'on a au niveau des petites associations, des très petites associations. Eux, ils sont structurés, il y a une quinzaine de salariés de mémoire, équivalent temps plein. Donc à un moment donné, par rapport aux besoins, on s'est appuyé, enfin ils se sont appuyés sur un logiciel de gestion intégrée, sur une communauté, enfin sur un logiciel avec une communauté libre, Odoo par exemple, et ils l'ont fait paramétrer à leurs besoins. Donc ça, c'est absolument pas à la portée de l'association qui n'a pas de salariés, ça. Hein. Donc voilà. Puis il faut accompagner le prestataire pour bien expliquer les besoins. Enfin voilà, c'est un travail lourd et qui ne peut répondre qu'à des besoins de structure moyenne ou importante. Mais en tout cas, pour le coup, ils en sont complètement satisfaits. Ça répond à leurs besoins. Évidemment, c'est dimensionné pour eux. Donc,
D'accord. Ouais. Est-ce que sur le retour d'expérience, tu as fini ou...
Il me reste deux points.
Vas-y.
Donc après, sur la question des moteurs de recherche, ils sont passés sous Quant. Et voilà, ils ont essayé d'éradiquer d'entrer systématiquement par défaut Google. Je pense que c'est une très bonne chose. Et puis ce qu'il explique, la plus grosse difficulté qu'il a eue, malgré l'intervention de tiers extérieurs, c'est de réussir à convaincre l'équipe que c'était autre chose qu'une question technique et une lubie du directeur.
On en revient aux discussions
de départ. Et de l'importance de faire venir des gens d'extérieur. Moi, dans mon réseau, au sein de la Fédération française, à chaque fois que je parle de logiciel libre, ça gonfle les gens, soyons très clairs. Alors que quand c'est quelqu'un d'autre qui vient en parler, ah bah ouais, peut-être que finalement, pourquoi Laurent nous disait ça, c'est peut-être pas inintéressant. Quoi. Enfin, voilà. Donc il y a aussi ces jeux-là à faire jouer pour pouvoir débloquer peut-être parfois des situations.
D'accord. Bah, sur les freins à l'adoption donc, du logiciel libre dans le mouvement associatif en général, je suppose, Frédéric, que tu as des retours aussi d'expérience ou un avis sur la question.
Oui, bah, je partage ce qui a été dit. Hein. Je pense que ça peut être qu'une démarche, de toute façon, une démarche au long cours. C'est intéressant cette question du militant, ce que dit Laurent, que dans sa structure, on lui dit « bon, ça suffit ». C'est pas toujours facile au sein de structures militantes que sont les associations d'accepter une autre militance. C'est assez drôle, parce que en fait, voilà, une association, ce sont souvent des militants, ça semblerait naturel qu'ils entendent une autre militance et qu'ils l'intègrent. Or, c'est pas si simple que ça, effectivement. C'est-à-dire, va militer dans ton autre asso. Et puis là, on fait ce pourquoi on a monté notre association, notre objet. Et oui, pas forcément
on reste
notre...
sur l'objet social, voilà. De l'association. Le reste,
exactement.
C'est pas important, en tout cas.
Alors, c'est évidemment un peu caricatural. Ouais. Heureusement, les associations sont, pour certaines d'entre elles, prêtes à intégrer un certain nombre de choses. Mais bon, voilà, c'est pas effectivement si simple, alors que ça paraîtrait assez naturel. Les freins, oui, bien sûr, ils sont ceux-là. J'ajouterais peut-être un autre frein qui est sur la question du réseau, parce que j'ai parlé du panorama associatif, j'ai pas dit qu'en France, les associations sont assez structurées, en fait. Le monde associatif est assez structuré et fédéré, c'est-à-dire qu'il y a à peu près la moitié des associations qui font partie de réseaux, alors de façon assez diverse, hein, avec des liens plus ou moins formés. Sur ce côté démarche, c'est vrai que si une tête de réseau décide de faire cette démarche, il faut vraiment qu'elle prenne en compte la question de la compatibilité, parce que je pense que la question de la compatibilité est importante, parce que ça veut dire qu'il faut que tout ce qu'elle fait soit aussi approprié par les structures de son réseau. Donc ça peut être en cascade, c'est pas juste changer...
C'est le ruissellement du logiciel libre.
C'est le ruissellement du logiciel libre, c'est magnifique. Et comme on a quelques doutes sur le ruissellement... Bon, je sais pas. Voilà, ça peut être une question. Mais voilà, ça, je pense que c'est quand même un enjeu pour les. Enfin, c'est une problématique pour les réseaux, parce que ça ne veut pas dire forcément changer que les façons de faire de la tête d'épingle qui a 10 salariés, qui va. Ça veut dire aussi réussir à développer ça dans toutes les petites structures qui font partie du réseau. Si on ne le développe pas, ça peut poser d'autres...
Et sans que ce soit vu comme imposé par les structures
ça, c'est
du
sûr.
Réseau. Parce que
la logique descendante, ça ne marchera pas. Ça, c'est clair,
donc
ça ne marchera pas.
C'est même contre-productif. C'est même l'inverse de ce qu'on voudrait obtenir.
Donc, il faut vraiment que ça soit approprié. Donc, c'est la question de la pédagogie, effectivement, qu'on vient d'expliquer les enjeux. Et puis après, même quand c'est approprié et qu'on se dit « Ah bah oui, ça serait super », oula, il faut le faire. On est déjà débordé, on n'est que des bénévoles, on n'a déjà pas le temps de faire ce qu'on voudrait faire dans notre projet associatif. Comment on fait pour faire ça? La question de l'accompagnement, elle est essentielle. Mais je ne sais pas s'il y a vraiment tant de moyens que ça d'accompagnement pour le passage au libre. C'est une question. Qui sont les personnes compétentes qui peuvent venir accompagner les associations dans cette transformation? C'est un enjeu pour l'April, sûrement.
Eh ben, ça tombe bien, merci pour l'enchaînement, parce que c'est le dernier point de notre discussion du jour sur évidemment les ressources extérieures pour accompagner les associations, les aider vers le logiciel libre. Donc, alors notamment, on va parler du guide Libre Association, du groupe de travail, du groupe de travail Libre Association, Laurent, que tu peux donc présenter désormais.
Oui, alors ou alors on fait peut-être un tour de tous les partenaires qui peuvent agir sur la question. On a cité Framasoft. Je pense que tout ce qu'ils mettent en place, c'est assez remarquable. Enfin, moi, j'arrête pas de les recommander. Hein, ouais. Même si je suis membre du conseil d'administration de l'April, je fais de la promotion pour Framasoft.
Mais ce sont des amis en plus.
Mais voilà, mais ça me semble évident. Mais de toute façon, vu le travail qu'ils produisent au quotidien, je pense qu'il faut absolument souligner les services qu'ils ont mis en place, qui sont des vraies alternatives décentralisées. Donc ça aussi, c'est une question vraiment centrale justement que pour l'avenir de.
Et appropriable, parce que le but, c'est que les gens puissent éventuellement installer leurs propres services, ils ont les compétences et le temps.
Et ça, si les fédérations se saisissent de cet objet-là, c'est vraiment un outil extrêmement intéressant. Voilà, donc du coup, il y a des discussions autour de ça. Il y a déjà des fédérations d'éducation populaire qui se sont positionnées par rapport à ça, qui vont installer des chatons. Je pense à la Ligue de l'enseignement, hein, qui s'est positionnée sur ces questions-là. Framasoft, ça me semble essentiel. Je peux renvoyer aussi vers l'agenda du libre, parce que sur l'agenda du libre, vous avez aussi une liste de structures qu'on appelle des groupes d'utilisatrices et d'utilisateurs de logiciels libres qui sont sur les territoires et qui peuvent potentiellement aider une association. Alors, c'est fonction de l'histoire de ce groupe d'utilisateurs qu'on appelle GUL. Voilà, s'il est ancien, s'il a envie d'aider ou pas, ou si c'est un sujet, ils préfèrent garder leur sujet en interne, etc. Mais en tout cas, ça vaut la peine de regarder s'il y en a un près de chez vous et si potentiellement il peut apporter une aide.
Donc, le site, c'est agendadulibre.org.
Voilà. Donc ça, c'est des structures alternatives ressources auxquelles je pense. Il y en a sans doute d'autres. J'ai pas préparé particulièrement cette question.
Il y a les prestataires de services locaux qui existent, hein, les sociétés de services en logiciel libre, qui sont d'ailleurs souvent des petites structures à taille humaine et qui peuvent parler évidemment aux associations.
Voilà, tout à fait. Et puis du coup, nous, c'est vrai qu'au sein du groupe de travail libre association de l'April, on essaye de fournir des outils et d'aider les associations sur cette question-là. Alors, on avait produit, par exemple, le guide des logiciels libres pour les associations, qui est encore accessible sur le site de Framasoft, d'ailleurs, je pense, non ?
Alors, il est accessible sur le site libreassociation.info, ouais. À la fois en version numérique. Et effectivement, il est disponible aussi en version Framabook.
Voilà, qui a été un peu actualisé quand même.
Alors, qui a été un petit peu actualisé sur le contenu et sur la mise en forme. Et j'en profite pour dire que les personnes qui seront donc à Paris Open Source Summit demain et après-demain ou à l'Ubuntu Party de ce week-end à la Cité des Sciences et de l'Industrie, que nous avons des exemplaires du guide à disposition.
Voilà, donc ce guide-là, c'est quand même intéressant parce qu'à la fois, on rappelle la question du rapprochement des valeurs, qui me semble essentielle, et puis, évidemment, on présente tous les outils alternatifs qui pourraient vous aider. Un des projets en ce moment du groupe Libre Association, c'est de travailler sur le développement d'un logiciel de valorisation du bénévolat. On sait que cette question-là, elle est centrale pour les associations et que c'est un peu compliqué de pouvoir comptabiliser ce temps-là ou d'avoir un outil simple qui permette de centraliser un peu les besoins. Donc, on est en train de travailler. Alors, avec le CRAGEP Bourgogne-Franche-Comté, je vais expliquer ce que c'est, Fred. Je te vois me regarder. Donc, c'est le comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire en Bourgogne-Franche-Comté. Avec le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté qui soutient financièrement le projet. Très vraisemblablement, ça pour l'instant on n'a pas encore la réponse, mais en tout cas la fondation du Crédit Coopératif semblait intéressée, et puis le mouvement associatif aussi régional à cet endroit-là. Donc voilà, on essaye de mettre autour de la table des acteurs concernés par cette question-là, et a priori toutes les associations le sont, pour faire aboutir quelque chose qui servira à tout un chacun, et donc alimenter le bien commun et l'intérêt général. Voilà. Et puis de temps en temps, quand on a le temps au sein du groupe Libre Association, on aide l'État. Voilà.
Alors, parce que explique-nous effectivement
qui en a bien besoin.
Sur bien sûr, on les aide à tenir leur engagement parce que, par exemple, cet été, l'État avait produit un CERFA. Donc, alors CERFA, c'est un modèle de document qui permet aux associations. Alors, les associations connaissent bien ça, mais qui permet aux associations de faire leur demande de subvention.
C'est un formulaire administratif pour faire des demandes de subvention.
Exactement. Or, pour faire un formulaire administratif, l'État s'est donné des règles. Il faut qu'elles respectent certaines règles, et par exemple que le PDF qui est produit pour ce formulaire puisse être ouvert par l'ensemble des systèmes d'information, quoi, par l'ensemble des logiciels,
logique.
Etc. Logique. Sauf que, évidemment, quand j'ai ouvert ce logiciel cet été, sous ma distribution GNU Linux Debian, c'était impossible d'ouvrir le document. Alors, heureusement, on me disait, mais si, allez télécharger la dernière version d'Adobe, ça va s'ouvrir. Donc, je télécharge une version GNU Linux, très bien. Et évidemment, quand on cliquait, il n'y avait pas de version. Donc voilà. Donc l'État n'était pas en cohérence avec ses propres règles. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait dans le groupe ? On a décidé finalement de reproduire un document et puis de le mettre à disposition. On a aussi interpellé par le biais du mouvement associatif régional la DRJSCS, enfin la Direction régionale jeunesse cohésion sociale. Et bon, on n'a jamais vraiment eu de réponse, sauf que au final, le document s'est retrouvé
sur le
site officiel. Donc on n'a jamais eu de réponse officielle, ce qui est bien dommage parce que finalement ils ont fait le travail. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'est aussi des petits exemples de choses qui peuvent être faites par le groupe et qui peuvent aider les associations.
Alors, merci Laurent. Je vais rappeler que le groupe est ouvert à toute personne qui le souhaite. Donc, en allant sur libreassociation.info, vous avez un formulaire qui vous permet de vous inscrire sur la liste de discussion ou en allant sur le site de l'April. Alors, le temps passe vite. Il nous reste vraiment quelques minutes. Mais on a fait un premier tour. Bien sûr, on va refaire des émissions sur le sujet. Restez avec nous jusqu'au bout de l'antenne. J'ai une petite surprise pour ceux qui apprécient, les personnes qui apprécient notre émission. Frédéric, est-ce que tu as quelques mots à ajouter sur ce sujet, des freins, soit de l'accompagnement
Juste pour rebondir sur Bénévalibre, libre, alors effectivement, le mouvement associatif, c'est pas encore vraiment positionné sur le projet, mais ceci dit, on en a parlé. Et je pense que c'est vraiment intéressant cette entrée par un outil spécifique aux associations qui répond à un besoin qui n'est servi nulle part ailleurs. Je veux dire, comptabiliser le bénévolat, c'est dans les associations que ça se passe. Et avoir cet outil créé dans le cadre du libre, je pense que c'est une bonne porte d'entrée peut-être pour cette question pédagogique. Voilà, je ne vais pas y revenir. Je pense que l'essentiel, c'est vraiment ça. Une fois qu'une association a compris ce que sont les enjeux derrière, il y a encore plein de travail pour arriver à faire quelque chose, mais au moins, c'est une première graine qui est semée dans l'esprit. On y pense, petit à petit, on peut faire un chemin, avancer. Voilà. Et il y a une vraie convergence de vues, indiscutablement, entre les acteurs du logiciel libre, qui sont associatifs pour beaucoup, et les associations dans leur grande diversité. Donc, encore une fois, tous les questionnements actuels qui émergent quand même de plus en plus auprès des citoyens vont forcément aussi être saisis par les associations, et ce qui peut promettre un beau développement du libre dans le monde associatif.
C'est une belle conclusion. Est-ce que Laurent, tu veux ajouter quelque chose ?
Non, je vais laisser le mot de la fin à Frédéric.
Alors, je vais juste faire une petite précision parce que Tonio, sur le salon web de la radio, nous précise que Blender fait aussi du montage vidéo.
Autant pour moi, Fred, mais
en tout cas, voilà, il y a des gens qui nous écoutent et qui, en plus, apportent les corrections. Donc, merci Tonio sur le salon web de la radio. Je vous remercie, Laurent Costi, qui est administrateur à l'April et directeur adjoint de la Fédération française des MJC, Frédéric Frunder, qui est donc délégué général du mouvement associatif, d'être venu pour cette première émission. On a fait un premier tour de table et peut-être que dans le cas d'une deuxième émission, on fera des retours d'expérience plus concrets avec des gens qui ont tenté d'utiliser des logiciels libres, de migrer, etc. En tout cas, merci à vous. Nous allons faire une petite pause musicale. Alors, comme c'est bientôt Noël, on a fait un choix évidemment en conséquence. Donc, le groupe s'appelle les Bernardos et le morceau s'appelle tout simplement Joyeux Noël.
Cause commune. Pour la nativité, je me suis acheté une boîte de raviolis et quelques confettis. Des piles dans ma radio qui passe un adagio. C'est de la binoni, c'est vraiment très joli. On s'amuse quand c'est trois sont mes raviolis, mais j'ai bon appétit. Grâce à un réverbère, j'ai un peu de lumière. Et je peux lire Zola ou Camus, j'ai le choix. Et sur la bande FM, on passe un requiem. On s'amuse quand c'est Noël. Y'a pas il est bientôt minuit, j'allume ma bougie. Dans toutes les familles, on s'embrasse sous le gui. Pour embrasser quelqu'un, je prends donc mon coussin. Je fais comme si c'était une jolie fiancée. On s'amuse.
Cause commune, cause-commune.fm. 93.1.
Vous êtes de retour sur Cause commune, donc 93.1 pour l'émission Libre à vous de l'April. Donc vous avez noté que cette pause musicale était très différente de la première. Donc là, c'était Joyeux Noël par les Bernardo. On va changer de sujet pour parler d'un événement qui va arriver en 2019, qui s'appelle le Libre en fête, qui est une initiative de l'April. Et donc j'ai interviewé il y a quelques jours ma collègue Isabella Vanni, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, donc qui est coordinatrice vie associative et assistante projet à l'April. Donc on va écouter l'interview et on se retrouve juste après. Eh bien aujourd'hui je suis en compagnie de ma collègue Isabella Vanni. Donc tu es animatrice vie associative et responsable projet à l'April et tu vas nous parler de l'initiative Libre en fête. Alors déjà, peux-tu nous expliquer ce qu'est l'initiative Libre en fête ?
Donc Libre en fête, une initiative ou encore mieux un événement national coordonné par l'April qui a lieu tous les ans depuis 2002. Donc on est déjà arrivé à la 18e édition en 2019. Il a lieu à l'arrivée du printemps. Et l'objectif, c'est de faire découvrir le logiciel libre au grand public dans une dynamique, si possible, conviviale et même festive. Donc, on va dire que au printemps, la vie reprend son cours après l'hiver. Et nous, on a pensé que le printemps est aussi une très bonne occasion pour les personnes, justement, de découvrir comment reprendre le contrôle de leur informatique grâce au logiciel libre.
Et donc, tu parles d'un événement qui a lieu au printemps. Est-ce qu'il y a des dates précises pour ces événements dans le cadre du Libre en fête ?
Oui, Fred, on est déjà en mesure donc de communiquer les dates pour l'édition 2019. En 2019, Libre en fête aura lieu du samedi 2 mars au dimanche 7 avril. Bien sûr, rien n'empêche d'organiser d'événements aussi à des dates légèrement avant ou légèrement après cette période. On n'est pas si strict non plus.
Alors donc, ce sont des événements, mais c'est pas l'April qui organise ces événements. Donc, qui organise ces événements et pour quel public ? Donc, tu as dit que c'est principalement pour le grand public.
Tout à fait. Donc, l'April a un rôle de coordination, mais les événements en soi sont organisés par toute structure ayant à cœur le logiciel libre et sa diffusion auprès d'un plus large public. Donc, ça peut être ANGUL. Je rappelle ce que c'est ANGUL parce que c'est un acronyme pour groupe d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres. Donc, des associations locales qui se proposent justement d'organiser des événements, des permanences pour favoriser la diffusion de logiciels libres. Mais ça peut être aussi d'autres structures qui peuvent être potentiellement intéressées à cette action. Par exemple, une médiathèque ou encore un hackerspace ou encore un café associatif, pourquoi pas une maison de la jeunesse ou de la culture. Il suffit qu'il y ait une personne motivée à l'intérieur de la structure et bien sûr que cette personne obtienne l'accord de la structure pour qu'un événement puisse se faire, puisse s'organiser.
Et dans les autres structures, il y a aussi les espaces publics numériques qui sont des lieux d'accueil et de sensibilisation à l'informatique. Et souvent, d'ailleurs, il y a des sensibilisations basées sur du logiciel libre. Et je suppose que c'est aussi l'occasion de, pour des groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices, donc de nouer des partenariats avec des espaces publics numériques.
C'est l'un des conséquences du Libre en Fête. C'est-à-dire, l'objectif, c'est justement de favoriser la diffusion, la promotion du logiciel libre auprès du grand public. Mais l'une des conséquences positives aussi, c'est la mise en place de partenariats, effectivement, entre les espaces publics et numériques et les GUL, les associations d'utilisateurs de logiciels libres.
Les associations de promotion du logiciel libre. Donc, ça a lieu au printemps. Donc, c'est la 18e édition. Donc, on a déjà une idée du nombre d'événements qui sont organisés à peu près chaque année. Donc, combien d'événements sont organisés à l'occasion de chaque édition, à peu près?
Donc, on va dire que dans les trois dernières années, on a eu environ entre 150 et 190 événements. On a eu un pic en 2009. On a dépassé les 200 événements et j'espère qu'on pourra atteindre, accomplir à nouveau cet exploit en 2019.
Donc l'objectif pour 2019, c'est d'atteindre ce pic de 200 événements. Est-ce que ce sont des événements qui sont organisés uniquement en France, principalement en France, ou il y a des événements dans d'autres pays, notamment francophones ?
Donc les événements jusqu'à présent ont été organisés notamment en France. Bien sûr, le logiciel libre n'a pas de frontières, donc on peut organiser un événement n'importe où. D'ailleurs, en 2018, par exemple, il y a eu des événements aussi organisés en Belgique et en Suisse.
Alors donc, si on comprend bien, donc c'est un ensemble d'événements qui sont organisés autour du printemps. L'April étant là pour, on va dire, lancer cette initiative, proposer des outils de sensibilisation. Donc il y a un site internet qu'on va, déjà indiquer, qu'on rappellera à la fin de l'interview. Donc c'est libre-en-fête.net. Mais concrètement, comment une structure qui organise un événement peut référencer son événement dans le cadre du Libre en Fête?
Donc l'initiative Libre en Fête s'appuie sur l'agenda du Libre. On en a déjà parlé dans cette émission. C'est un site en fait de référence pour trouver tout événement ou toute structure autour du Libre près de chez soi. Et donc ça permet aux organisations, aux structures qui organisent des événements de référencer, de publier, de soumettre l'événement Libre en Fête sur l'agenda du Libre, donc pour lui donner un maximum de visibilité. Et pour que l'événement soit référencé dans le cadre de cette initiative, il suffit d'ajouter le mot-clé Libre en Fête 2019, un tiré entre chaque mot. Donc libre-en-fête-2019.
Donc voilà, il faut aller sur le site donc, de l'agenda du Libre, agendadulibre.org, et quand vous saisissez votre événement, vous pouvez mettre un certain nombre d'étiquettes ou de tags, par exemple atelier d'initiation, et vous rajoutez donc l'étiquette libre-en-fête-2019, ce qui permet ensuite aux événements d'être référencés directement sur le site de l'initiative Libre en Fête. Donc on encourage évidemment toutes les structures à organiser des événements, à les référencer. Je suppose qu'il y a d'ailleurs des événements qui sont organisés dans le cadre du Libre en Fête, mais que les structures organisatrices ne référencent pas sur l'agenda du Libre, parce qu'elles oublient.
Ça peut arriver, donc c'est le rôle de coordinateur, ou de la coordinatrice en l'occurrence, c'est-à-dire que l'April, en tant que coordinateur, fixe les dates, choisit le thème. D'ailleurs, j'en profite pour dire que cette année, le thème est la priorité au logiciel libre au quotidien. L'April met aussi à disposition un site web, tu en parlais tout à l'heure, fait des appels à participation, notamment en direction des organisations qui sont déjà actives sur l'agenda du Libre, et veille à ce que les événements soient correctement référencés. Donc si ce n'est pas le cas, c'est à moi de veiller à ce que ce soit fait et à relancer les structures.
Donc nous invitons toutes les structures évidemment qui le souhaitent à organiser des événements dans le cadre du Libre en Fête. Évidemment, si vous avez besoin d'outils de sensibilisation, des dépliants, des affiches, des autocollants, l'April en a à disposition, donc vous pouvez nous contacter. Vous pouvez aussi en trouver sur le site enventelibre.org, donc enventelibre tout attaché, .org. Mais Isabella, tu vas peut-être simplement nous rappeler les dates, le site, et si tu as quelque chose à ajouter par rapport à cet événement.
Oui, je voudrais profiter pour donner quelques pistes parce que il y a plein d'événements différents qui peuvent être organisés. Donc, il peut s'agir de conférences, d'ateliers d'initiation à un logiciel libre ou à un service libre en ligne. Il peut s'agir de séances de contribution à un projet collaboratif. Je pense par exemple à Wikipédia ou OpenStreetMap. Ça peut être aussi des install parties. Je vous rappelle qu'install party, on l'a déjà dit dans d'autres émissions, sont des réunions où les gens peuvent aller pour se faire aider à installer un système de distribution libre sur son ordinateur. Il peut s'agir aussi de vidéos sur le logiciel libre ou d'expositions expliquant le logiciel libre et ses enjeux. Et d'ailleurs, l'Expo Libre de l'April peut être un outil très pertinent pour ce genre d'événement. Et bien sûr, il est possible aussi de proposer plusieurs activités dans le cadre d'une même journée de découverte. J'aurais parlé en particulier d'un événement très sympa qui a eu lieu en 2018, Libre en fait en Trégueur. En fait, il y a plusieurs associations de cette région qui s'associent tous les deux ans pour se donner le temps d'organiser un bel événement pour proposer une série d'animations autour du logiciel libre. Et en 2018, en plus de nombreuses mini-conférences sur différents thèmes comme le logiciel libre, l'open data, la cybersécurité, ils ont proposé aussi des jeux libres. Ils ont proposé une séance de cartographie participative. Je parlais tout à l'heure d'OpenStreetMap. Ils ont proposé aussi des démos de l'imprimante 3D, parce que l'esprit do it yourself est très cher aux libristes et il y a des points de contact très forts avec les hackerspaces. Donc voilà, c'est pour donner des exemples d'événements qui peuvent être organisés.
Alors, Libre en fait en Trégor, c'est en Bretagne. Install Party, on parle aussi souvent de fête d'installation, même si ce n'est pas forcément totalement festif, mais en tout cas, c'est collaboratif et il y a souvent des choses à partager au-delà des logiciels. Donc, est-ce qu'on a fait le tour de la présentation de Libre en fait ? Tu veux peut-être rappeler les dates, le site et les éléments importants. Le site de l'Expo Libre dont Isabella vient de parler, c'est expolibre.org. Vous pouvez retrouver l'Expo Libre en version PDF que vous pouvez imprimer. Et il y a également une version qui est disponible à la location. Donc, Isabella, je te laisse conclure.
Donc, tout à fait. Donc, pour l'édition 2019, les dates retenues sont du samedi 2 mars au dimanche 7 avril 2019. Le site, c'est libreenfête.net, donc libre-en-fête.net. Une liste de discussion également disponible, lef@libre-en-fête.net. Et donc, participez nombreux, le succès de l'événement sera possible grâce à vous. Donc, organisez plein d'événements.
Bah écoute, merci Isabella, je trouve que c'était très clair. Et effectivement, nous vous encourageons à organiser plein d'événements de découverte du logiciel libre et nous encourageons évidemment les personnes ensuite à aller à ces événements qui seront annoncés au fur et à mesure depuis début 2019 jusqu'à autour du printemps 2019. Mais écoute, merci Isabella, je te souhaite une bonne fin de journée.
Merci à vous aussi.
Eh bien, vous êtes de retour en direct sur Cause Commune 93.1. Donc, vous avez eu une présentation par ma collègue Isabella Vanni de l'initiative Libre en fait, dont la première édition date de 2002 et d'ailleurs qui est née en Bretagne, sur des plages de Bretagne. Et je salue à cette occasion l'autre personne qui a lancé cette initiative à l'époque, c'était Pascal Desroches, qui se trouve toujours en Bretagne. Donc l'objectif, je vois passer sur les réseaux sociaux, on m'annonce 200 événements en 2019 pour le Libre en fait. Donc il va falloir évidemment organiser plein d'événements. Bon, l'émission se termine bientôt, on va passer aux actualités, aux annonces, dont une devrait normalement vous faire plaisir, j'espère. Donc sur les actualités à venir, et notamment les événements, ben, on en a parlé tout à l'heure, il y a le Paris Open Source Summit, donc, qui a lieu les 5 et 6 décembre à Aubervilliers. Donc je vous rappelle que autre collègue Étienne Gonu interviendra donc mercredi à 9h15. Pour parler des logiciels libres de caisse et de la loi antifraude à la TVA. Alors vous dites quel lien entre les deux. Et bien écoutez, ça, venez voir sa conférence ou sinon je vous redonne rendez-vous début 2019 dans l'émission où on reviendra sur le sujet, car c'est une action très importante institutionnelle qui a été menée par l'April suite à la loi de finances de 2016. Étienne interviendra également une dizaine de minutes dans le cadre des présentations donc Open Source Community Summit, donc le 5 décembre à 13h40, de 13h45 à 16h30. Donc ça, c'est plusieurs interventions courtes. Et il abordera la problématique du partage de code dans la directive droit d'auteur. Donc on a déjà parlé de ce sujet dans des précédentes émissions, mais la directive poursuit sa route au niveau du Parlement européen. Et on en reparlera début 2019, car le sujet sera à nouveau d'actualité. Laurent Costi, qui est toujours avec moi en studio, interviendra jeudi 6 décembre à 15h30 dans l'atelier donc les logiciels libres pour nos associations, enjeux et solutions pratiques. L'April a évidemment un stand, donc vous pouvez nous retrouver sur le stand B24. Ensuite, le week-end, vous avez l'Ubuntu Party, les 8 et 9 décembre à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Bon, je suppose que sur cette radio, de nombreux appels ont été faits pour l'Ubuntu Party, avec notamment Olive et Charlotte. Alors nous aurons également...
Mais surtout... Le plateau de Cause Commune sera en direct sur toutes les émissions du week-end depuis la Cité des Sciences.
Alors, vous venez d'entendre la voix donc d'Olivier Grieco, ouais, qui nous rappelle effectivement que le plateau de Cause Commune sera en direct. Donc, vous pourrez voir les gens du plateau et effectivement, ça sera diffusé
samedi dimanche.
Ouais. Samedi dimanche. Mmh. Et donc, l'April aura un stand. Vous y retrouverez aussi l'expo libre dont vient de parler Isabella. Je l'ai emmenée tout à l'heure, donc elle devrait être disponible sur l'espace. Avant ça, jeudi 6 décembre, vous avez la soirée de contribution au libre qui a lieu donc à la Fédération, la Fondation pour le Progrès de l'Homme, donc rue Saint-Sabin. C'est tous les jeudis, donc pour permettre apprendre à contribuer au libre en fonction de vos compétences. Tous les autres événements, vous les retrouvez évidemment sur le site de l'Agenda du Libre, donc agendadulibre.org. On a parlé de Noël. Si vous voulez offrir des cadeaux, des goodies utiles et sympas à vos amis, famille, vous avez le site enventelibre.org dont il a été question tout à l'heure. Vous pouvez y retrouver des t-shirts, des livres, des badges, des clés USB. Vous pouvez aussi faire un don à Cause Commune pour aider à soutenir l'association qui porte cette radio, parce qu'évidemment, il y a des coûts matériels. Une petite annonce aussi, nous avons ouvert un questionnaire. L'émission aujourd'hui, c'est la 7e émission mensuelle. Nous avons ouvert un questionnaire donc sur le site de l'April, april.org, pour avoir des retours et suggestions concernant notre émission, pour vous permettre en fait de vous exprimer et puis nous d'améliorer l'émission au fur et à mesure. Donc je vous encourage à vous rendre donc sur april.org. Ça prend à peu près une dizaine de minutes pour remplir ce questionnaire. En tout cas, c'est très utile pour nous d'avoir des retours. Alors, je vous dis que l'émission est une mensuelle, et donc l'annonce de service de fin d'année, après discussion, notamment avec Olivier Grieco et avec l'équipe de l'April, nous avons décidé de passer notre émission en hebdomadaire à partir de janvier 2019. Donc, la première émission hebdomadaire, ce sera le 8 janvier. Bon, j'ai essayé de convaincre tout le monde de faire une émission le 1er janvier, mais on m'a dit qu'il n'y aurait pas forcément grand monde pour écouter. Donc, à partir du 8 janvier 2019, nous serons en hebdomadaire. Alors, la raison est tout simplement pour nous permettre de traiter plus de sujets, de pouvoir réagir à l'actualité, donc avec une émission hebdomadaire. C'est le même horaire, 15h30, 17h. La première émission, nous aurons justement donc la Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État, donc la DINSIC, une personne de la mission État Lab qui est chargée de la politique d'ouverture et du partage des données publiques du gouvernement français. Dans la première interview qu'on a écoutée tout à l'heure sur Paris Open Source Summit, il était question du référent logiciel libre, Bastien Guéry. Donc Bastien sera peut-être avec nous. Et dans la deuxième émission, alors là je vous annonce vraiment du très très sérieux, nous aurons le plaisir et l'honneur d'avoir le président donc, de la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, qui viendra échanger donc avec nous, avec Regards Citoyens et avec Xavier Berne de Next Impact, suite à récente décision de la CADA qui nous questionne, et c'est en lien avec le ministère de la Défense, nos meilleurs habits. Donc voilà, nous passons en hebdo, donc vraiment pour nous c'est quelque chose d'important, et j'espère que ça vous fait plaisir et que vous serez à l'écoute de l'émission. Donc celle-ci se termine, vous vous retrouvez sur notre site web, donc april.org, toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio Cause Commune, donc causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Nous vous souhaitons de passer une belle journée, de passer également de belles fêtes de fin d'année, et on se retrouve le 8 janvier 2019 pour la première émission en hebdomadaire. D'ici là, portez-vous bien, et nous nous quittons en musique, comme d'habitude, avec Weston.
Cause Commune. Toutes nos émissions en libre écoute. cause-commune.fm.